France Inter.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Charles Cunningham Boycott est un ancien officier de l'armée britannique reconverti en gestionnaire de terre. À la fin du 19e siècle, il se retrouve au cœur d'un conflit qui donnera naissance à une nouvelle expression dans la langue anglaise. Né en 1832 dans le Norfolk, Boycott est un homme au caractère bien trempé et souvent intransigeant. Après une brève carrière militaire sans éclat, il se tourne vers la gestion des terres en Irlande, un pays alors marqué par des tensions agraires profondes. Et en 1972, il accepte un poste pour gérer une vaste étendue dans le comté de Mayo. À cette époque, l'Irlande est secouée par des crises agraires sévères, exacerbées par des récoltes désastreuses et des loyers exorbitants imposés aux paysans locaux. En tant que gestionnaire, Boycott est chargé de collecter ces loyers et de maintenir l'ordre, souvent de manière impitoyable. Ces méthodes radicales, incluant des expulsions pour ceux qui ne pouvaient s'acquitter de leur loyer, le rendent extrêmement impopulaire auprès des métayers. La tension atteint son paroxysme en 1880, lorsque des fermiers, sous l'impulsion de la Ligue agraire nationale, demandent une réduction significative des loyers. Boycott refuse toute concession majeure, ce qui entraîne une série d'expulsions. En réponse, Charles Stewart Parnell, un leader politique influent et figure de proue de la Ligue, incite les locaux à ostraciser Boycott sous la forme d'une exclusion sociale et économique totale. Le nom de Boycott est alors utilisé pour décrire cette tactique de résistance non violente. Les travailleurs refusent de récolter ses terres, les commerçants de lui vendre des biens et même le facteur cesse de livrer son courrier. Cet isolement forcé est si efficace que Boycott doit faire appel à une main-d'œuvre extérieure protégée par des soldats pour sauver ses récoltes, opération qui se révélera d'ailleurs coûteuse et inefficace. L'histoire de Charles Boycott captive l'attention des médias britanniques et internationaux, faisant du terme « boycott » un mot courant, qui fait officiellement son entrée dans les pages de l'Oxford English Dictionary en 1880. Après cet épisode, Boycott retournera en Angleterre, où il vivra discrètement jusqu'à sa mort en 1897, mais son nom lui restera gravé dans l'histoire comme le symbole de l'oppression et de la résistance collective. Le boycott s'inscrit dans un éventail très large d'actions menées autour de la consommation engagée, et c'est cette histoire de ces mouvements que nous allons vous raconter. Bonjour Sophie Dubuisson-Quellier.
Bonjour Mathieu Vidard.
Boycotter une marque de pâte à tartiner, dégonfler les pneus d'un SUV, acheter sa nourriture en circuit court ou bien manifester contre l'implantation d'une plateforme de commerce en ligne, est-ce que tout ça, au fond, raconte un peu la même chose ?
Oui et non, je dirais. Oui, parce que en fait, à chaque fois, il s'agit d'essayer de montrer qu'en tant que consommateur, on est capable de dire des choses, de résister, de se prononcer en faveur de produits ou contre des produits. Donc, ça relève de la consommation. Et oui et non, parce que en fait, toutes ces actions ne passent pas toujours par le marché et ça en fait une grande différence.
Ouais, ces différentes formes d'action, hein, ce panel assez large, eh bien, vous les évoquez dans votre ouvrage La consommation engagée, dont la troisième édition, qui a été entièrement actualisée, a été publiée aux éditions de Sciences Po. La consommation, c'est une arme efficace pour faire valoir des positionnements politiques ou éthiques ou pas ?
En tous les cas, c'est une arme que, assez tôt, les consommateurs ont choisi de saisir. Et peut-être plus que les consommateurs eux-mêmes, ou les individus, en fait, il faut plutôt regarder ce qui se passe du côté du monde associatif. La consommation engagée, c'est d'abord une consommation qu'on engage. C'est d'abord des associations, aujourd'hui on dirait des ONG, qui se sont préoccupés de mobiliser les consommateurs pour faire valoir leurs droits ou construire leurs devoirs.
Donc c'est du collectif plus que de l'individuel, c'est un peu ce que vous montrez, hein ?
Tout à fait. En fait, l'histoire de la consommation engagée montre bien que c'est vraiment une histoire qui passe par les mobilisations collectives, qui prennent différentes formes d'ailleurs, hein, qui vont essayer de mobiliser les consommateurs. Et finalement, cet engagement des consommateurs, c'est la résultante de ces démarches collectives.
Vous dites que la consommation engagée est très segmentée socialement. Elle concerne principalement quel type de personnes alors ?
Oui, alors la consommation engagée est plutôt le fait de personnes qui, sans être très riches, n'ont pas de difficultés économiques, pour une raison assez simple, c'est que souvent cette consommation engagée, elle est plus onéreuse en fait que la consommation normale. Et puis elle concerne également des gens qui trouvent un intérêt, voire du plaisir aussi à creuser ce qui est derrière la consommation, donc à trouver des informations, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les chaînes de valeur où on produit par exemple, quelles sont ces conditions de production, quels sont leurs effets sur le travail, la santé, sur l'environnement. Donc ce sont aussi des gens qui vont passer un peu de temps finalement à construire ce qu'on appelle une consommation réflexive.
Est-ce que c'est un phénomène en augmentation, la consommation engagée ou pas ? Comment on l'analyse aujourd'hui ?
Alors c'est toujours la question de la mesure qui est une question délicate parce que en fait pour mesurer cette consommation engagée, il faut s'en donner une définition. Si je dis par exemple finalement est un consommateur ou une consommatrice engagé, quelqu'un qui une fois dans sa vie a acheté par exemple une boîte d'œufs bio, c'est pas la même chose que si je dis c'est quelqu'un qui a complètement retiré par exemple de sa consommation tout ce qui peut avoir des impacts carbone. Il va d'ailleurs plus rester grand chose en réalité. Donc en fait la question de la mesure suppose d'arrêter cette définition. Le problème c'est que la consommation engagée ne cesse d'évoluer. Alors en tous les cas, bien sûr il y a des tas d'organismes qui mesurent cette consommation et qui ont montré d'ailleurs qu'elle a cru et puis qu'actuellement peut-être elle chuterait un petit peu. En tous les cas, c'est un phénomène qui intéresse beaucoup, qui a pris beaucoup de place dans l'espace public, l'espace médiatique également, et qui intéresse aussi beaucoup les gens.
Ouais, et ce serait quoi alors la bonne définition pour vous, en l'occurrence ?
Alors pour moi, en tant que sociologue, en fait, je suis les acteurs. Donc cette consommation engagée, ce qui est intéressant, c'est d'en suivre les formes, les évolutions au fil du temps, et peut-être pas de fonctionner avec une définition intangible. En tous les cas, mais
ouais,
on peut malgré
quand même réponse.
On peut quand même donner une réponse. Le principe de la consommation engagée, c'est de dire quand on consomme, on pense au-delà de soi-même, on pense à d'autres intérêts que ses propres intérêts, son propre désir, ses propres aspirations. Donc ça va être par exemple penser à ceux qui produisent, ça peut être penser à la planète. Donc c'est vraiment l'idée de dépasser en fait ses propres aspirations.
Ouais, on verra à quel moment la préoccupation environnementale d'ailleurs est arrivée dans cette histoire de la consommation engagée, parce que c'est une histoire que vous racontez, et c'est un phénomène d'ailleurs qui n'est pas nouveau. À quel moment alors justement apparaissent les premières mobilisations ? Quelles sont les premières formes que vous avez identifiées, Sophie Dubuisson-Quélier ?
Alors en fait, effectivement, on peut dire que le fait d'avoir une consommation qui n'est pas subie, mais qui cherche comme ça un petit peu à aller au-delà de ce qui nous est imposé, en fait, a démarré avec l'avènement de la consommation elle-même, en fait. Il y a toujours eu des critiques de la consommation à mesure que la consommation s'est développée. Mais quand même, les historiens qui ont beaucoup travaillé sur les mobilisations de consommateurs, en fait, ont montré l'avènement de quelques événements assez intéressants. Et par exemple, il y a ce qui se passe au milieu du 19e siècle, quand une partie du mouvement abolitionniste américain qui lutte contre l'esclavage décide de produire ou de faire produire des produits traditionnellement issus de l'esclavagisme, qui sont le sucre, par exemple le coton, par du travail libre. Donc ça s'appelle le Free Trade Movement, le Free Labor Movement. Mon petit lapsus est intéressant parce que ça ressemble beaucoup au commerce équitable. Mais donc c'est l'idée de faire des filières complètement séparées, et ces militants vont d'ailleurs vendre ces produits directement dans leur maison. Et en fait, c'est un mouvement qui ne dure pas très longtemps parce qu'il subit des sortes de tiraillements au sein de la cause abolitionniste, qui dit quand même c'est une cause qui est beaucoup trop sérieuse pour qu'on puisse imaginer la résoudre par quelques gestes comme ça de consommation ordinaire. Et en fait, le mouvement va tout doucement s'effacer. Mais en fait, on voit bien l'idée de faire des filières ad hoc. Et puis, ces critiques en fait, que ça produit, ça va nous rappeler énormément ce qui va se passer plusieurs années plus
tard
avec
le commerce équitable. Il y a déjà cette idée de justice sociale, au fond, et de penser le produit dans son entièreté, c'est-à-dire depuis le moment où il est fabriqué, donc par des personnes qui souvent, d'ailleurs, travaillent dans de très mauvaises conditions, et puis jusqu'au moment où on va le consommer. Donc, il y a cette idée-là, déjà, qui germe très tôt. Moi, j'étais surpris de voir que, par exemple, en 1790, les Anglais avaient, par exemple, boycotté le sucre produit par les esclaves.
Oui, c'est ça, en fait. Et d'ailleurs, dans l'histoire que vous avez rappelée avec ce nom de boycott, en fait, qui vient de ce monsieur, on voit que cette cette idée de boycott, c'est d'abord un ostracisme marchand, un ostracisme commercial. Et c'est effectivement ce qu'on a dans cet événement, en fait, au moment de l'indépendance américaine, où les colons veulent se séparer de la tutelle des Anglais. Ouais. Et une manière de le signifier, c'est de dire on ne veut plus commercer avec vous, donc on jette votre thé dans la baie de Boston.
Le Tea Party.
La fameuse, ouais, Tea Party.
Ouais.
Et en fait, cette idée de commerce, il y a cette vieille expression française qui dit, on dit de quelqu'un, par exemple, qu'il ou elle est un commerce agréable. Et ça veut dire qu'on a envie, en fait, d'entretenir des relations avec cette personne. Donc on voit que les relations commerciales et les relations tout court, ouais, sont quand même des choses qui sont fortement connectées. Aujourd'hui, un appel au boycott est bien plus efficace par l'ostracisme qu'il contient que par sa puissance de feu économique qui est souvent assez faible.
En tout cas, vous montrez que ça joue un rôle très important dans la construction, par exemple, de la nation américaine face, effectivement, hein, aux importations anglaises.
Tout à fait, tout à fait. C'est un événement tout à fait fondamental.
Ouais. Il y a les mouvements coopératifs, ils sont aussi intéressants, si on fait encore un petit peu d'histoire, puisque vous montrez que dès le XVIIIe siècle se développent donc des organisations communautaires en France, par exemple, hein, dont l'idée aussi est de lutter contre les fragmentations sociales. Donc il y a quoi derrière ça ?
Oui, alors le mouvement coopératif, il est intéressant parce qu'effectivement, il part de cette idée que les consommateurs pourraient avoir quelque chose à dire, un pouvoir, quelque chose à dire sur les conditions de production et être en tout le cas associé aux bénéfices qui sont issus de ces opérations de production et de vente. Et en fait, on sent bien dans ce mouvement que c'est vraiment une façon de rassembler les consommateurs. Mais bien sûr, le mouvement coopératif, il a aussi un autre versant, puisqu'il y a aussi des coopératives patronales qui vont être utilisées cette fois beaucoup plus par les milieux économiques pour essayer, en gros, de domestiquer cette critique ouvrière qui est grondante et qui est menaçante.
Et d'ailleurs, c'est une constante, hein, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien que le mouvement est souvent pris par l'économie ou l'industrie pour en faire autre chose et rester, évidemment, dans le marché. En 1912, est créée en France la Fédération nationale des coopératives de consommateurs. Et elle existe encore.
Tout à fait, hein. Oui. Beaucoup moins actives, les coopératives, ouais, qu'elles ne l'ont été. Oui.
Est-ce que les années 50, parce que aussi dans cette histoire, vous le racontez bien, avec une critique du consumérisme très forte à ce moment-là, évidemment, qui va aussi avec la consommation effrénée, on voit une rupture particulière dans les façons de faire. Parce qu'à partir des années 50, c'est aussi une façon d'accéder facilement aux produits qu'on nous propose. Est-ce que parallèlement, on va aussi se développer beaucoup de messages anti-consommation ou pas ?
Oui, alors effectivement, les années 50 et 60 plutôt, en fait, sont des années qui ont marqué effectivement cette critique du consumérisme, cette critique en fait d'un consommateur qui deviendrait complètement aliénés, comme ouais, l'ont été avant ceux qui fabriquent, les ouvriers. Donc, il y a aussi cette façon marxiste, en fait, de mettre en évidence les formes de domination qui s'exercent sur les consommateurs par une consommation qui est de plus en plus galopante et qui grignote tous les aspects de la vie quotidienne. Mais en fait, la critique de la consommation, elle est beaucoup plus ancienne que ça. Elle a des traditions beaucoup plus longues. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant dans ces mobilisations de consommateurs, c'est qu'on voit qu'il y a toujours deux versants. Il y a un versant, en fait, qui est plutôt celui de la promotion des droits et des intérêts du consommateur, et un autre versant qui est plutôt la promotion de ses devoirs et de son pouvoir. Et donc, ce qui est intéressant dans la consommation engagée, c'est qu'elle contient ces deux dimensions-là.
Vous allez nous raconter dans un instant comment la question environnementale, justement, est arrivée dans cette histoire de la consommation engagée, et puis vous allez répondre également aux messages, voire aux témoignages. Parce que, amis auditeurs et auditrices, si vous sentez consommateur ou consommatrice engagée, bah dites-le nous, ça nous intéresse. On répondra à vos questions tout à l'heure sur la page de La Terre au Carré et sur nos réseaux sociaux.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Nous appelons à boycotter d'abord les paysans, mais aussi l'ensemble des citoyens qui, pour la jardinerie ou même au niveau de la santé, peuvent acheter des produits Monsanto. Nous leur demandons aujourd'hui d'arrêter d'acheter ces produits et nous allons lancer ce mouvement pas simplement en France, mais aussi au niveau européen et au niveau international. Maintenant, nous nous retournons une fois de plus vers le président de la République pour lui demander d'organiser un référendum. Est-ce que les Français veulent oui ou non des OGM dans leur assiette ? Nous demandons aujourd'hui à toutes les forces sociales, les forces syndicales, politiques, de s'engager pour demander ce moratoire.
La voix de José Bové, là c'était en novembre 2005 pour la Confédération Paysanne, appel au boycott des produits Monsanto. Sophie Dubuisson-Quellier, vous qui êtes l'autrice de ce livre sur la consommation engagée aux presses de Sciences Po, vous rappelez d'ailleurs qu'en 1997, la mobilisation contre la firme Monsanto a commencé, donc cette firme qui commercialise des produits utilisant des technologies OGM. Là on entendait José Bové appeler au boycott français, européen, international. Ça a porté ses fruits ou pas ça ?
Alors, c'est compliqué d'imaginer qu'un boycott a des effets directement économiques. Comme on le rappelait tout à l'heure avec cette origine du mot boycott, ce qui est intéressant, c'est la dimension d'ostracisme. Et finalement, le boycott ressortit de ce qu'on appelle les actions de name and shame. Alors, c'est de l'anglais. Name, on nomme. Shame, on fait honte. Ouais. Donc, en fait, ces actions, ces appels au boycott, ils imputent des responsabilités et ils nomment directement les acteurs économiques qui portent la responsabilité de la situation.
Ce qui, pour leur image, n'est jamais très bon, d'ailleurs.
Exactement. Hein. Et c'est là que, en fait, les appels au boycott ont une forme de puissance en ostracisant et en désignant, en fait, à la vindicte ces acteurs économiques.
Alors, l'appel au boycott, justement, dans le domaine de l'environnement, est-ce qu'il est fourni ou pas ?
En France, pas tant que ça, mais aux États-Unis, en fait, il existe des sites internet qui relaient de manière permanente tous les appels au boycott, et c'est assez phénoménal la grande densité d'appels au boycott qu'il existe de manière quasi quotidienne.
Ouais. On découvre aussi que le consumérisme politique en faveur de l'environnement se traduit aussi par le boycott. Alors, je ne connaissais pas ce terme. Le boycott, ça consiste en quoi ? C'est exactement le contraire ? C'est acheter des bonnes choses ?
Oui, alors c'est un terme qui a été inventé. Alors, on ne sait pas exactement dans quel contexte, mais on le retrouve beaucoup autour du commerce équitable. C'est formé avec le mot buy, acheter, et puis qui sert de radical et pour ressembler à boycott. Donc, cette fois, le boycott, donc on refuse d'acheter, le boycott, au contraire, on va soutenir une cause par les achats. Alors, pourquoi le commerce équitable ? Parce que c'est vraiment un mouvement, en fait, qui est né de l'idée que, finalement, aller chercher la capacité économique financière des consommateurs au nord pour soutenir les petits producteurs au sud, c'était probablement l'un des leviers possibles pour faire de l'aide au développement. D'ailleurs, avec beaucoup de controverses au sein de ce mouvement à ce sujet.
En 1974, ouvre la première boutique artisan du monde. C'était rue de Rochechouart à Paris. Et à Marseille, ce sera en 1980.
Rencontrer le tiers-monde, cela n'est pas facile si l'on n'a pas les moyens de voyager. C'est pourtant ce que propose Artisan du Monde, une association qui a ouvert une boutique à Marseille, rue Château-Redon. On peut y trouver toutes sortes de produits exotiques d'alimentation et d'artisanat, mais aussi des renseignements et une approche de la vie dans le tiers-monde. Artisan du Monde voudrait devenir en quelque sorte un carrefour et un lieu de réflexion pour tous ceux qui s'éveillent à la nécessité de créer des rapports plus justes entre les peuples.
Reportage d'FR3 Marseille, donc en décembre 1980, Sophie Dubuisson-Quellier. C'est quoi la définition du commerce équitable ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait ?
Oui, alors c'est cette idée finalement que pour que le commerce soit vraiment équitable, en fait, il doit rémunérer l'ensemble des parties prenantes à leur juste valeur. Et ce commerce équitable, en fait, il lutte contre des pratiques du commerce mondial qui tend à mettre dans la misère, en fait, des petits producteurs dès lors que, en fait, les cours mondiaux de certaines denrées s'effondrent. Et le principe du commerce équitable, c'est de dire on va jamais descendre, en fait, en dessous d'un certain seuil. Et ça, ce sera possible parce que les consommateurs au Nord vont accepter de les payer un peu plus cher.
Il y a différentes filières au sein du commerce équitable ?
Oui, alors il existe différentes filières, il a existé différentes filières et différentes façons de faire du commerce équitable, avec notamment des tentatives d'intégration verticale, ou avec un acteur en fait qui pouvait tenir l'ensemble de la chaîne, ou au contraire d'autres visions dans lesquelles on disait ceux qui distribuent n'ont pas besoin en fait de posséder ces filières de commercialisation plus vers l'amont. Donc, il y a toute une série de façons de faire. Aujourd'hui, le commerce équitable, on connaît surtout à travers un label, en fait, qui permet aux consommateurs d'identifier ses produits dans l'espace commercial.
Et alors, est-ce que ça a été une réussite commerciale, précisément, cette idée de faire du commerce équitable, réussite commerciale, et puis évidemment, avec des répercussions positives sur, par exemple, les producteurs ?
Alors, le commerce équitable, en fait, a toujours connu, jusqu'à il y a peu, des taux de croissance phénoménaux, mais comme on partait de tout petits volumes, oui. En fait, ça restait des choses qui n'étaient pas forcément quantitativement très, très importantes. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que, d'abord, le commerce équitable, c'est vraiment des gens qui n'ont jamais cessé de s'intéresser à leurs pratiques, les effets de leurs pratiques, etc., mais essayent aussi d'interroger la possibilité, finalement, d'un commerce équitable qui pourrait aussi concerner des producteurs au nord. Mmh. C'est-à-dire pas seulement un commerce nord-sud ou sud-nord, oui. Mais un commerce également nord-nord, dans finalement un contexte où un certain nombre de producteurs au nord, et notamment en France, donc d'agriculteurs par exemple, sont pas nécessairement très bien rémunérés en fait pour les produits qu'ils fabriquent.
Mais là encore, ça s'adresse à quel type de consommateurs finalement ? À des gens qui ont quand même les moyens de payer un peu plus cher ?
Alors oui, le commerce équitable en fait, c'est vraiment, en fait, compte vraiment sur ce consentement à payer, pour parler comme les économistes, cette capacité des consommateurs au Nord à financer ce surplus, à payer plus cher les produits, en considérant que finalement ces efforts en fait qui sont demandés aux consommateurs au Nord, ils sont vraiment conditions qui vont permettre de rémunérer correctement en fait la production.
Et donc là encore, ça représente pas tous les consommateurs, loin de là.
Non, alors surtout pour le commerce équitable, parce que alors ça peut être un peu différent pour le bio. Pour le commerce équitable, en fait, les allégations du commerce équitable sont vraiment des allégations d'aide au développement. Donc il y a vraiment, on est vraiment sur les bases, le cœur de la consommation engagée, une consommation où on dépasse ses propres désirs, ses propres aspirations. Ce qui peut être un peu différent pour le bio, qui pendant très longtemps en fait a été réinterprété par les consommateurs comme un moyen de préserver leur santé.
Oui, c'est ça, plus que l'environnement.
Oui, alors pendant très longtemps en fait la première raison de consommation bio c'était pour sa propre santé, alors même que le bio n'a pas d'allégation directe sur la santé des consommateurs, mais bien plus en fait sur la protection de l'environnement. Bien sûr, on peut extrapoler les effets sur la santé du consommateur.
Est-ce que cet acte engagé, il est très présent, selon vous, dans l'esprit de celles et ceux qui achètent des produits bio aujourd'hui ? Est-ce que c'est une source de motivation ?
Alors, non, et très clairement, majoritairement, la consommation bio, en fait, c'est une consommation qui vise justement à préserver sa santé et qui a des objectifs, en fait, très proches d'un autre type de consommation de ce point de vue-là. En revanche, en fait, il y a cette consommation bio, elle est un petit peu plus chère parce que, d'une part, en fait, les produits sont plus chers à fabriquer, mais aussi peut-être parce que certains intermédiaires, enfin la grande distribution, sait très bien que le consentement à payer est fort. Donc on sait aussi que les marges du bio sont quand même plus élevées que les autres marges. Donc on retrouve ce consommateur qui a un consentement à payer plus important.
Dans un contexte particulier en ce moment, pour l'agriculture bio et la consommation bio, 5,6%, c'est le chiffre que vous donnez aujourd'hui de la consommation alimentaire des ménages pour la part du bio, avec une période qui est compliquée en ce moment.
Et oui, et de fait, du coup, on peut s'interroger sur ces marges qui sont restées élevées dans un contexte inflationniste. Il est clair que si une partie des consommateurs, avant cette inflation, avait intégré cette consommation-là, et d'ailleurs, on a vu qu'en fait, le recrutement des consommateurs du bio s'était un peu élargi, était notamment descendu vers des consommateurs peut-être moins bien sur le plan économique. On voit bien que ces marges qui ont été maintenues élevées, en contexte d'inflation, on fait s'écrouler le bio.
Est-ce que les syndicats ont réussi à mobiliser aussi les consommateurs ? Vous l'évoquez sur précisément le fait de devenir presque des alliés de la lutte syndicale.
Alors ça a toujours été très compliqué en France. Il y a eu cet épisode en fait autour de Danone où en fait il y a eu une tentative d'associer syndicalisme et mobilisation de consommateurs. Mais en fait c'est compliqué parce que on a l'impression que finalement les mobilisations de consommateurs vont jouer contre les intérêts des travailleurs. Mmh. Et donc ça a toujours été compliqué. Cela dit. Historiquement, en fait, il y a une partie du mouvement consumériste, donc des associations de consommateurs, qui est très proche des mouvements syndicaux. Donc il y a quand même, en fait, un certain nombre de liens.
On verra avec vous, Sophie Dubuisson-Kellier, dans un instant, quelles sont les autres formes de consommation engagées, et puis si, évidemment, tout cela porte ses fruits, et quelles sont aussi, peut-être, les limites, et vous répondrez aux messages qui arrivent sur la page de l'émission.
Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Depuis 15 ans, Jean-Louis roule dans ce vieux 4x4. Mais il y a quelques jours, cet habitant de Caen a connu une bien mauvaise surprise un matin en voulant prendre sa voiture.
Je descends et je trouve mes deux pneus dégonflés en bas de chez moi.
Un acte revendiqué par des militants écologistes opposés aux SUV qui ont pris le temps de laisser ce petit tract sur le pare-brise.
Vous n'êtes pas notre cible, c'est votre véhicule. Nous faisons cela car conduire un véhicule de cette taille dans une ville est particulièrement néfaste.
Voilà, le gang des dégonfleurs de pneus, c'était l'année dernière sur France 3 Normandie, en mars. Sophie Dubuisson-Kelly, puisque vous montrez qu'à côté des grandes mobilisations collectives, on voit aussi apparaître des formes de résistance plus diffuses. Alors, il y en a énormément, vous en évoquez beaucoup, le slow food par exemple, le boycott contre certains produits alimentaires. Et puis, dans cette histoire-là aussi, le mouvement des dégonfleurs. Qu'est-ce que ça vient faire un peu dans cette histoire? Parce que là, on n'est pas dans de la consommation propre. On dénonce en tout cas quelque chose de l'ordre de la consommation. Mais...
Exactement, enfin, c'est ce qu'on appelle les mouvements de résistance à la consommation. Alors effectivement, les dégonfleurs qui s'attaquent aux 4x4, aux SUV, etc. font partie de ces mouvements. Et les mouvements anti-publicitaires également, ouais. qui ont été très puissants en fait, en tout cas très visibles. Puissants, on ne sait pas, mais en tout cas très visibles dans l'espace public au début des années 2000 et qui arrachaient par exemple les publicités dans le métro, dans l'espace public. Il y a eu quelques procès également retentissants.
Les mouvements de déconsommation. Consommation ? Alors, qu'est-ce que c'est ça exactement ? C'est des mouvements de décroissance, de sobriété, c'est quoi ?
Alors, en fait, je ne sais pas si on peut identifier quelque chose comme des mouvements de déconsommation, mais en tous les cas, il y a des façons de prôner la déconsommation, qui sont notamment le fait de certaines pratiques de consommateurs, ou plutôt de gens qui vont essayer de vivre un petit peu à la marge, en refusant la consommation de masse, en proposant des modes de vie qui sont alternatifs et qui vont plutôt vers une modération. En effet.
C'est ça, avec l'idée aussi de mutualiser les choses. Hein. C'est ça, on voit ça par exemple dans les replays cafés, on s'en souvient, ou les jardins d'insertion. Il y a cette idée, c'est ça, de pouvoir agréger les actions.
Oui, en fait, ce sont des mouvements, plutôt des démarches qui vont essayer d'avoir cette visée un peu expérimentale. On va expérimenter d'autres façons de produire, d'autres façons de consommer, d'autres façons de travailler, de vivre ensemble, de construire de la solidarité. Et ces expérimentations, elles sont intéressantes parce qu'elles cherchent à préfigurer en quelque sorte ce que serait une société de l'après-consommation de masse.
Il y a les circuits courts, évidemment, avec les systèmes de vente directe entre producteurs et consommateurs qui se sont beaucoup développé dans les années 90. On en a beaucoup entendu parler, évidemment, au moment de la crise du Covid. Et puis, là aussi, un peu retour de bâton sur la question.
La consommation engagée, en effet, en fait, on pourrait dire ça va, ça vient. Il y a beaucoup de propositions qui sont faites et puis qui disparaissent ou sont aussi avalées par l'offre en fait telle qu'elle existe, hein, qui peut aussi tenter de chercher à répondre à certaines demandes qui sont exprimées par cette consommation engagée. Et puis il y a aussi les effets en fait des contextes particuliers, le Covid, vous l'avez cité, mais on peut citer aussi les effets de l'inflation qui ne sont pas négligeables.
Sophie Dubuisson-Kelly, vous dites bien que cette consommation engagée, elle ne mobilise qu'une partie restreinte de l'espace social. Sur la question de son efficacité, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Eh oui, ça c'est toujours la grande question. Est-ce que ça marche au fond ?
Ben oui.
Alors, sur le versant positif, on peut dire que la consommation engagée, elle a permis de mettre à l'agenda, de rendre visible toute une série de problèmes qu'on ne voyait pas. On peut penser à l'huile de palme, au bien-être animal, aux problématiques des véhicules lourds, etc. En fait, des sujets qui sont comme ça montés dans l'espace public, dans les médias, sur l'agenda politique, de manière importante, à la faveur de cette consommation engagée. Le versant plus négatif, c'est que cette consommation engagée, lorsqu'elle s'exprime sur le marché, elle est en fait assez vite ravalée par l'offre, le monde économique, qui va essayer en fait de dire, mais tiens, il y a des consommateurs qui veulent ces types de produits, je vais proposer un segment de mon marché, pas changer l'ensemble de mon offre, mais proposer un segment qui y répond.
Donc ça, c'est terrible, parce qu'en fait, on alimente la bête.
Exactement.
En voulant la dénoncer, en réalité, on l'alimente et on donne de nouvelles idées pour renouveler aussi le marché.
Exactement. En fait, le fait que le monde économique se nourrit de sa critique, c'est quelque chose qu'on sait bien dans les sciences sociales. Et donc, en fait, le monde économique trouve derrière ses critiques des opportunités commerciales dont elle se saisit pour proposer de nouveaux segments.
Donc la difficulté, c'est de pouvoir produire de nouvelles normes pour la société dans son ensemble. ensemble, en fait, et dépasser finalement ce petit cercle des consommateurs engagés ?
Tout à fait, parce que, en fait, alors c'est pas tant l'étendre à l'ensemble des consommateurs, mais c'est plutôt considérer que cette consommation engagée, elle interpelle, en fait, le régulateur. Et son attente est beaucoup plus du côté d'une transformation de la régulation.
Sophie Dubuisson-Kelly, on passe aux questions des auditeurs et des auditrices. Muriel témoigne et nous dit ceci dans le contexte de la vie chère aux Antilles. On essaye de prôner l'engagement pour l'agriculture locale et la pêche plutôt que les importer. Facile d'accès mais trop cher. Mais il y a besoin, dit-elle, d'une aide de la politique locale et de la santé.
Oui, ben là, c'est exactement ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'on voit bien que imaginer en fait que les transformations vont venir du pouvoir de la demande des consommateurs, c'est un peu illusoire. Ça peut effectivement permettre de rendre visibles ces critiques, ces attentes, mais en fait, les attentes sont beaucoup plus du côté de la régulation et ce sont beaucoup plus les changements induits par les politiques publiques qui sont susceptibles d'être transformateurs.
Pour bouger les choses vraiment structurellement, plus que, évidemment, au-delà de nos gestes, même s'ils sont importants, parce qu'il ne s'agirait pas de décourager évidemment celles et ceux qui nous écoutent. Il y a ce témoignage d'Arlette d'ailleurs qui nous dit ceci: mon mari et moi faisons très attention à nos consommations, achats en local, alimentation, achats made in France pour les vêtements. C'est un coût certes, mais nous consommons mieux et plus durable. Achats de seconde main aussi beaucoup, ressourceries locales, vaisselle, fringues. En s'y mettant tous, on pourra faire bouger les lignes. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle?
D'abord, il faut comprendre qu'effectivement, pour beaucoup de consommateurs et de consommatrices, c'est important en fait de mettre en cohérence les valeurs et les actes. Donc, toutes ces démarches qui sont faites, et là, effectivement, ça va très loin, c'est assez admirable, sont importantes aussi pour s'y retrouver. Du point de vue de l'efficacité, il faut imaginer que ce pouvoir des consommateurs, il reste très faible, parce que jamais il ne parviendra à s'étendre en agrégeant tous les consommateurs. C'est vraiment très centré sur une partie des consommateurs. Mmh. Et en fait, les plus modestes et les beaucoup plus riches, en fait, ils consentent assez peu. Donc, on attendra plutôt des transformations du côté des politiques publiques.
Et on le dit, on le redit à chaque fois à ce micro. Didier témoigne en disant: votre intervenante indique que le bio est meilleur pour la transition écologique que pour la santé des consommateurs. Je ne sais pas si vous avez dit ça réellement. En tout cas, le bio ne rime pas toujours avec écologie, dit Didier, notamment lorsqu'on importe des fruits et des légumes bio provenant de l'autre bout de la planète. De même, le bio est souvent suremballé.
Et oui, ça c'est toutes les contradictions en fait des pratiques de consommation qui s'appuient sur des produits qui agrègent en fait des tas de décisions qui sont pour les unes et pour les autres, pas nécessairement en cohérence. Typiquement, effectivement, quand on a du bio qui vient de très loin, ça peut poser des problèmes. Alors même si on sait très bien que ce sont les modes de production qui sont beaucoup plus impactants
plus que le transport.
C'est important de le rattraper.
Ouais. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça.
Tout à fait.
Ouais. Faye nous dit ceci: j'achète bio pour notre santé, celle des animaux. Nous sommes nombreux dans ce cas, mais est-il admissible que les grandes surfaces en profitent pour faire plus de marge? Nous acceptons de payer plus cher les producteurs, pas les intermédiaires, dit-elle.
Oui, la question des marges, en fait, peut être quelque chose qui pourrait être interrogé de manière beaucoup plus directe à travers cette consommation engagée. Oui.
La consommation ne serait-elle pas plus partagée, dit Patrice, si les lobbies agricoles ou industriels ne venaient phagocyter notre démocratie, où sont élus des personnes soutenues par des médias aux ordres des puissances économiques? Oh là là, mon Dieu!
Bon, là, on a une version
que dit la sociologue
de tout ça. Non, mais en fait, on voit bien que derrière tous ces enjeux, il y a des questions quand même de débats démocratiques. Il y a des questions en fait sur notre alimentation. Je pense qu'il y a des attentes aujourd'hui qui sont assez fortes de rouvrir un certain nombre de sujets et de pouvoir en discuter de manière beaucoup plus démocratique.
Peut-on parler, demande Jean, ce sera ma dernière question, de consommation engagée lorsque l'on parle du boycott récent en Croatie contre l'inflation? Arrêt de la consommation un jour par semaine les 24 et 31 janvier dernier, ni dans les magasins ni en ligne, entraînant une baisse de 50% des ventes dans le pays. On est dans une forme de consommation engagée.
Alors,
là.
Oui, je ne connais pas cette occurrence-là, mais c'est intéressant et de voir qu'il commence aussi à y avoir dans un certain nombre de pays des appels pour des journées sans achat, comme ça existe déjà depuis un certain nombre d'années.
Pour lutter contre le Black Friday, par exemple.
Par exemple.
Merci beaucoup, Sophie Dubuisson-Kellier. Votre ouvrage, donc troisième édition, s'appelle La consommation engagée, et c'est aux presses de Sciences Po pour celles et ceux qui souhaiteraient le découvrir. Merci beaucoup d'être venu au micro de la Terre au Carré.
Merci.